pertinent déjà abordé les deux aspects qu'il y a sous cette thématique, donc l'église, carrière dans l'église, et puis carrière professionnelle et église, et engagement dans l'église, et service de l'église. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous donne la parole. Mathieu.
C'est pas exactement ce que là, mais c'est une question qui me taraude depuis toujours. Et c'est un peu l'histoire de la carrière et du service. C'est dans l'évangile, il est marqué, ne vous appelez pas père ou maître les uns les autres. On appelle les prêtres père et nos évêques maître. Alors que c'est marqué, c'est le Christ qui ne dit pas père. Pourquoi est-ce que
c'est une question qu'on a souvent posée, qu'on a souvent posée. Et je n'ai pas de réponse vraiment à donner, sinon qu'il y a une petite tradition, je vais mettre avec un petit pied, qui s'est mise en place progressivement. À partir des premiers siècles, je pense, on a appelé les évêques et les prêtres pères. Alors, il faut peut-être revenir à la terminologie. Qu'est-ce que ça veut dire père? Pape en grec, papas. C'est celui qui engendre. Donc, si on revient à la définition, on n'est pas trop dans l'erreur. En sachant quand même que celui qui engendre par excellence, c'est Dieu. Mais, il y a cette tradition qui s'est instituée. Bon, personnellement, moi, je n'ai jamais été très attaché à la terminologie. Et souvent, entre prêtres, par exemple, ou avec des diacres, avec les évêques aussi, ça m'arrive, je ne dis plus Monseigneur, je ne dis plus Père, je dis Joseph, je dis Sidéon, comment ça va, etc. Bon, je ne dis pas toujours. Je dis aussi Père, je dis aussi Monseigneur, ça dépend à qui je m'adresse, et si je connais ou si je ne connais pas. Donc on peut être souple. Vous pouvez vous faire entendre d'ailleurs suite à ce genre de simplification, je m'appelle Père ou je m'appelle Monseigneur. Vous pouvez vous faire entendre. Ça, c'est possible. Bon, c'est le problème de celui qui répond. Mais qu'est-ce que veut dire le Christ dans ce sens-là? Profondément, ce n'est pas le terme maître ou père. C'est-à-dire ne vous substituez pas à celui qui est votre maître et qui est votre père. C'est ça que ça veut dire profondément. Ce n'est pas tellement le mot. C'est ne soyez pas des substituts de Dieu. Nous ne sommes pas des substituts de Dieu. Personne. C'est la seule manière dont je peux répondre. Après, il faut qu'un concile modifie les choses. On parlera du concile d'autres fois.
Voilà. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'énergie perdue dans un travail véritable. Philippe Maillard, si je ne me trompe pas, mon éducateur, il disait qu'il n'y a pas d'amour perdu. Comment est-ce qu'on peut arriver à conjuguer la nécessité et l'amour?
Oui. Voyez-vous, quand saint Paul, on va reprendre son exemple, parce que c'est de lui dont on parle, quand saint Paul, sur le chemin de Damas, est mis par terre, on peut dire, mais en même temps, il est mis debout dans la lumière de Dieu, enfin qu'il en est aveuglé. À ce moment-là, et après son baptême, il sait d'intuition divine qu'il a à œuvrer, autrement dit, comme il le dit à un certain moment, à travailler. Mais il va le faire toujours par amour de Dieu et par amour de ses frères. Ça ira très loin. Ça ira jusqu'au mardi. Mais il veut le faire par amour. Alors, pour nous qui avons à travailler, pour gagner notre pain, déjà, comment travailler et aimer en même temps? C'est une ascèse. C'est de l'ordre de l'ascèse. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à des situations mouvantes, en permanence, sur le terrain de notre travail, et que nous sommes sollicités par Dieu, à chaque instant, pour aimer. Et ça, c'est pas facile. J'ai travaillé, comme on a dit au début, dans professionnellement, j'ai eu plusieurs activités et j'ai eu des collègues, j'ai eu même des gens sous mes ordres à certains moments. Il fallait que j'exerce, j'étais moine déjà à l'époque. Il fallait que je reste moine. D'abord que je reste chrétien, avant tout. Et puis, là, prêtre par la suite, sans que personne ne sache d'ailleurs. Comment faire? Je pense que nous ne pouvons pas échapper à la prière, mon frère. À la prière qui est relation directe avec Dieu. Si je me mets en prière régulièrement, une fois par jour, deux fois par jour, peu importe, quelques minutes, dans l'autobus, dans le train, dans la voiture, si je me resitue face à Dieu, et que je suis honnête dans cette relation avec Dieu, je vais à ce moment-là avoir le discernement pour aimer. Ou avoir le discernement pour constater que je n'ai pas su aimer. Parce que malheureusement, ça nous arrive aussi. Et c'est là où il faut être des meilleurs, des attentifs, pour vraiment nous surveiller, nous veiller, veiller sur nous-mêmes et sur la grâce de Dieu qui nous est donnée. Qu'est-ce que je fais de ton amour que tu me donnes, et que tu me donnes pour moi, mais aussi pour celui qui est à côté de moi, avec lequel non seulement je partage le pain, mais je partage l'amour aussi. Et c'est une problématique, parce qu'on peut être confronté à des oppositions graves dans le travail, de la part de hiérarchie ou de la part des inférieurs. On va parler comme ça, c'est une terminologie qui n'est pas très jolie, mais enfin, on est bien obligé d'utiliser les mots. Qu'est-ce que je vais faire si on me rentre dedans parce que j'ai donné un ordre et que cet ordre ne convient pas aux personnes que j'ai sous ma coupe pour le moment? Ça doit me remettre en cause. Est-ce que j'ai donné cet ordre avec amour? C'est là la question. Ce n'est pas de donner un ordre et de ne pas le donner. Bien sûr qu'il faut donner des ordres à certains moments. Pour organiser, il faut donner des ordres. Le mot ordre, c'est organisation. C'est la même chose. Mais seulement, est-ce que je le fais par amour et donc avec respect de la personne pour qu'elle puisse s'épanouir, que son être et non pas son existence s'épanouisse? C'est là la question. Et c'est peut-être de cette manière-là que, doucement, avec la grâce de Dieu, nous pouvons concilier amour et réalisation professionnelle sur un plan général.
Moi, une question qu'un ajout. Je pense que vous n'avez peut-être pas suffisamment insisté sur le pouvoir, trop sur l'orgueil,
pouvoir,
l'argent et l'excès de carrière, surtout dans l'Église, c'est essentiellement pour exercer le pouvoir. La plus grande peut-être tentation de l'homme en général, c'est précisément le pouvoir. Et ça peut se voir à différents niveaux. Mais au niveau de l'Église, alors c'est parfois démentiel.
Oui, c'est tout à fait juste. Cette question du pouvoir sur la terre, déjà, et dans l'Église en particulier, est une question grave. C'est lié évidemment à la notion de carrière. C'est quand j'ai parlé de la carrière, dans le sens, dès que nous commençons à envisager une carrière dans le sens de je vais être plus grand que les autres, donc, sous-entendu, je vais avoir du pouvoir, parce que pour être plus grand, il faut avoir du pouvoir. Or, ce terme de pouvoir, c'est pareil, devrait être banni. Le terme de pouvoir dans le sens de je possède. Bien sûr, si on prend le terme pouvoir, donc je peux. Donc, sous-entendu, je peux aider à la réalisation de ce monde. Alors, le mot pouvoir a un sens positif. Mais quand nous parlons du pouvoir, en général, c'est péjoratif. Cela veut dire « je possède ».
Et je domine.
Et je domine. Alors, on ne va pas rentrer aujourd'hui, parce que je pense que ce n'est pas le moment, mais en tout cas, les événements récents nous prouvent combien le pouvoir et la domination dans l'Église sont une hérésie. faut le dire, le mot. On dit qu'il n'y a plus d'hérésie, donc il n'y a plus besoin de concile. Eh ben dis donc, alors là, il faut faire le concile très vite. On est en plein dans les hérésies. Et notamment cette hérésie du pouvoir, cette hérésie de la carrière. C'est terrible. Et sous-entendu derrière cela, je fais juste une parenthèse, la fameuse hérésie du philétisme. Donc, actuellement, je ne dis pas nous sommes sur le bord, dans certains cas, nous sommes déjà dedans. Je ne veux pas citer. Pardonnez, je ne veux pas citer, mais tout le monde est suffisamment éveillé et intelligent pour comprendre. Et ça, c'est terrible. Et je peux vous dire, et je terminerai la parenthèse, que je suis le premier à verser des larmes. Vraiment, des larmes. Et à me dire, qu'est-ce que je fous là-dedans? Excusez-moi de la vulgarité. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Même si je suis, moi aussi, participant, à ma manière et à mon niveau, de cette hérésie. Et vous avez même souligné le pouvoir que donne l'argent est terrible. Il bouffe le monde actuellement. Le monde est brisé par le pouvoir de l'argent. C'est Satan qui entre dans le processus. Et quand ça me fait rire quand j'entends certaines personnes, chrétiennes ou non chrétiennes, qui disent que le Satan n'existe pas. Mes amis, il n'y a qu'à se promener un tout petit peu, puis on va voir qu'il existe. Le monde est en train de se détruire, et ce n'est pas nouveau, mais enfin en ce moment c'est particulier, à cause du pouvoir de l'argent, à cause du pouvoir de la carrière. Il n'a qu'à regarder que nos politiques, et je ne rentrerai pas dans des discussions politiques ici. Nous sommes en pleine hérésie là aussi. Enfin, eux, ils n'ont pas besoin, ils connaissent l'hérésie par cœur. Mais on est en pleine hérésie. Ce n'est plus du service, ce n'est plus du don de soi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et c'est encore démoniaque. Parce qu'on détruit. On détruit le monde, on détruit notre monde, là où nous vivons. Et par le pouvoir et de l'argent, et de la puissance, on détruit même le monde matériel, physique, naturel. Le patriarche Bartholomé a encouragé à ce qu'on préserve la nature, on la respecte, parce que, mais pourquoi on ne la respecte pas? Par pouvoir, sur la nature, mais un pouvoir qui ne nous a pas été donné par Dieu. Il a donné à l'homme un certain pouvoir, oui, mais un pouvoir créateur, participateur de la création, mais pas un pouvoir de domination au sens où je vais détruire en procédant. Là, c'est la catastrophe. Et dans l'Église, bien sûr, dès qu'on parle du pouvoir, on est dans l'Église. On est dans l'Église.
Nous avons un grand privilège, finalement, dans l'Église orthodoxe, issue de l'immigration et minoritaire de toute façon. Parce que nous n'avons pas de grande carrière possible dans l'Église, elle reste toujours secondaire, et nous n'avons pas d'argent. Alors nous avons en ce sens l'Église de l'immigration et les Églises plus larges issues de l'immigration ont à cet égard un rôle, prophétique à jouer précisément. Le grand danger, c'est les grandes Églises et les Églises dominantes. Celle qui possède là, les possibilités de l'argent, les possibilités de carrière.
Je vous remercie de souligner ça, parce que c'est très important. Au niveau de la mission que nous avons à réaliser dans nos différentes éparchies issues de l'immigration. Toutes les éparchies sont issues de l'immigration. Et c'est comme vous l'avez souligné, une chance inouïe qui est à notre disposition. Nous devons en arriver, non pas par orgueil, un jour à pouvoir dire « Faites comme moi !» Il faudrait pouvoir y arriver. Comme saint Paul.
On a toujours la possibilité de dire « Faites comme il faisait. »
C'est encore mieux. Mais vous voyez, ça c'est un rôle extrêmement important. Parce que par glissement progressif, il y a eu dans l'Église une installation et du pouvoir et de la carrière qui passe par des bêtises, mais énormes, absolument énormes. Je pense, et j'en suis bénéficiaire, si on peut utiliser ce terme, je pense aux gadgets que nos bons évêques nous donnent quand on est un bon prêtre ou un bon diacre. Alors on nous donne un chapeau, une autre couleur, on nous donne un bout de tissu qu'on met à droite, qu'on met à gauche, on nous donne un machin, un mitre, etc., etc. C'est sympathique, pourquoi pas, après tout, bon, on donne bien des décorations militaires, etc. Ça fait partie de l'homme, tout ça. Mais de grâce, relativisons tout ça. Mettons tout ça à son niveau. Oui, si on m'a donné une mitre, je la mets de temps en temps. Quand on me l'a donnée, j'ai demandé à l'évêque, est-ce que je dois la mettre souvent? Il m'a répondu, tu la mets quand tu veux. Et j'ai dit, si je la mets que 4 ou 5 fois par an, ça suffit. Il m'a dit, c'est tout à toi de voir. Donc ça va, comme ça je peux la laisser au placard quand j'ai envie de la laisser au placard. Bon, mais peu importe, il y a des prêtres qui mettent leur mitre à chaque célébration. Pourquoi pas, on s'en fiche de ça.
Vous avez l'exemple du père Basile Zelkowski, qui n'était quand même pas... qui est un grand homme,
ouais.
Il n'a jamais mis la
main. Oui, mais il y en a d'autres, bien sûr.
Oui. Par rapport à cette question, puisque c'est plus une source de tentation, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de supprimer cette petite tradition?
Tout à fait. Ça n'a pas de sens profond. C'est une récompense. Mais comme disait Nicolas Leski un jour, alors qu'il avait reçu une médaille, c'est plus de l'ordre de Saint quelqu'un, enfin de Saint Séraphin ou de Saint Serge, alors bon, on lui avait remis cette médaille, et il m'a dit dans le creux de l'oreille, juste après, c'était remis dans le rang avec moi, et il m'a dit, tu comprends, c'est gentil, tout ça, mais autrefois on lui donnait aussi du pognon, maintenant on lui donne même plus. Donc ça voulait dire, cette forme de dérision et d'humour, tout ça, bon, c'est pas très mal. C'est une certaine reconnaissance, mais elle est mal exprimée. Elle est mal exprimée. Il faudrait revoir tout ça. Mais c'est pas à moi d'en décider. Je suis plutôt un de ceux qui ramassent les colifichets aussi.
C'est au sujet du thème de l'engagement. On demande de m'engager, qui est dans le livre. Mais ça ne donne pas très envie. Je ne sais pas, vous écouter, enfin, écouter tout ce qu'on dit, tout ça. De ne pas avoir de limites, de petits symboles. Je ne sais pas, ça a assez décourageant tout ça. Enfin, moi, je le dis personnellement, mais ça me donne pas trop envie de m'engager. Je me dis, oh là là, on va me critiquer, j'ai pas envie. Je dis, bon, ben, je sais pas, j'ai envie de rester dans mon coin, quoi. Mais je le ressens. Il n'y a pas beaucoup de gens, enfin, ça me amène pas beaucoup. Et d'ailleurs, on en souffre tous, les associations, les trucs, je ne parle pas que dans l'église, je parle aussi des trucs hors, enfin, des trucs associatifs aussi.
Oui, oui je pense, je parle de l'église essentiellement. Bon, là, nous avons abordé des thèmes qui sont des thèmes de mise en garde par saint Paul. Donc, effectivement, nous voyons des éléments négatifs, puisque ce sont des mises en garde. Mais il faudrait peut-être faire un colloque sur les aspects positifs de la vie de l'Église que saint Paul développe bien évidemment aussi. Et d'ailleurs, quand il met en garde, c'est justement pour mettre en évidence le positif du service. Donc, mettre en garde contre le danger de l'orgueil, pour résumer, que ce soit dans le travail, dans l'argent, dans la carrière, etc., mais pour arriver à ce qui est essentiel, le service. Je me mets au service de ce qu'a fait le Christ, ce qu'ont fait les apôtres, ce qu'ont fait les saints. Et ça, c'est passionnant. Et ça, c'est dynamisant. Et seulement, je pense actuellement, je ne veux pas être pessimiste, parce que ça ne sert à rien de pessimiste, mais si on reste un petit peu à regarder ce qui se passe, c'est vrai qu'actuellement, proposer un engagement dans l'Église, c'est pas évident pour ceux qui sont susceptibles de pouvoir répondre à cette proposition. Ce n'est pas évident au travers du bazar que présente l'Église actuelle. Certainement un saint bazar, équilibre, bon mot, un peu violent, mais c'est quand même un bazar. bien que beaucoup de nos églises sont orientales, et que le bazar en Orient a un sens très important, et un rôle très important, mais au demeurant, il faudrait quand même nettoyer de temps en temps notre bazar. Mais, quand je dis ça, il faut que je commence, moi, à nettoyer mon propre bazar. C'est là que ça commence. Parce que si je veux m'engager avec mon bazar, ça ne marchera pas non plus. Je vais rajouter du bazar au bazar. Donc il faut que je me libère moi-même de mon bazar et que j'accepte une proposition, même si c'est dans l'état difficile dans lequel je vais m'engager, mais en me disant je ne vais pas me laisser piéger par cela. Parce que ce n'est pas évangélique. Parce que ce n'est pas cela que le Christ demande.
J'aurais une question sur l'argent. Est-ce que vous pensez que l'argent est mauvais en soi? Et donc, si oui, n'y a-t-il pas une éthique ecclésiale de l'argent? Est-ce que refuser qu'il y a une éthique ecclésiale de l'argent ne signifierait pas, ne nous ferait pas tomber dans une forme de manichéisme? Personnellement, je pense que l'argent en soi n'est pas mauvais ou bon, et qu'il y a donc une possibilité de vivre avec argent et bien, et donc aussi de réaliser l'Église malgré ou avec l'existence de l'argent.
Oui, je pense que tu as donné la réponse. Je vais la reprendre. Je pense que l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est un moyen d'échange. Il n'a pas toujours existé. Avant, on échangeait les objets, les vêtements, ce qu'on appelle aujourd'hui le troc, et qui revient de temps en temps sur nos places publiques. Bon, c'est quand même relativement limité. Mais l'argent est devenu un élément d'échange. Alors considérons-le comme un élément d'échange. Et si nous nous en tenons là, on peut fonctionner. Et en nous souvenant que il y a toujours un danger, et c'est pas dans l'argent qu'est le danger, c'est dans la possession de l'argent. C'est, on en revient toujours à la même chose. Le pouvoir que j'ai avec l'argent, la possession que j'ai. Quand le Christ nous invite à ne pas nous contenter, je résume et je traduis, à nous contenter d'être peinards. Le Christ n'a pas utilisé ce terme-là, qui est encore une fois vulgaire, d'être tranquille, de dormir sur nos oreillers de plumes. Il nous met en garde, à divers niveaux. Et à propos de l'argent, il le dit aussi. Il le dit au jeune homme riche. La leçon du jeune homme riche, c'est quoi? C'est pas qu'il faut... bien sûr, le Christ avait après en disant les riches, pas ceux qui possèdent de l'argent, les riches, c'est pas la même chose. Les riches auront du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, les riches? Ça veut dire ceux qui possèdent de l'argent. C'est ça que ça veut dire. C'est l'interprétation du mot. Regardez dans un dictionnaire, c'est à peu près ce que vous trouverez. Donc, posséder de l'argent, c'est posséder les autres. C'est avec l'argent pouvoir les posséder. C'est donc le mal de notre humanité et le mal de notre Église aussi. Il faut donc rappeler, et c'est le rôle des pasteurs en premier, de nos évêques, de nos prêtres, de nos enseignants, de nos théologiens, c'est il faut rappeler que l'argent n'est pas mauvais en soi, mais qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et nous avons des règles dans l'Évangile. Nous avons des règles. D'abord dans la vie du Christ lui-même, est-ce qu'il n'avait pas d'argent? Probablement qu'il en avait un peu. Probablement. Mais il n'y attachait pas d'importance, parce qu'il se donnait totalement. Et il avait confié la bourse à Judas, en consensus avec les autres apôtres, je suppose. Ça ne l'intéressait pas, mais il utilisait la bourse de Judas, lui aussi, certainement pour manger ou pour faire une offrande au temple, par exemple, lorsqu'il y allait. Certainement. Mais il utilisait l'argent à bon escient, avec équilibre. Et dans l'Église, nous devons toujours nous poser cette question. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que je trésorise? Et pourquoi je trésorise? Quelquefois, c'est nécessaire de trésoriser. Si j'ai une famille, des enfants qui grandissent, il faut que je pense à les loger, peut-être plus grandement, et peut-être il faut que je fasse des économies pour pouvoir acheter ou louer un appartement plus grand, etc. C'est normal. C'est normal de trésoriser dans ce cas-là. Mais si j'ai ce qu'il faut, j'ai mon appartement, je suis propriétaire, je continue de thésauriser pour être content d'avoir mes relevés de banque qui montent de plus en plus tous les mois, là, il y a une petite faille. Mais une petite faille. Et si dans l'Église, dans l'organisation de l'Église, on entre dans ce processus, il y a une grande faille, une très grande faille. Parce que l'Église doit être missionnaire, et on ne peut pas missionner si on ne donne pas l'exemple, avant tout. La bonne parole, c'est bien, mais l'exemple de l'être qui vit, ça c'est autre chose. Alors il faut quoi faire? Et il faut s'interroger sans arrêt. C'est ça l'Évangile. L'Évangile est à notre disposition pour nous interroger sans arrêt, non pas pour être triste, mais au contraire, si on se libère de ce qui est possession, on a une joie. Vous savez, je vais vous dire un secret, et pardonnez-moi de me livrer dans mon expérience personnelle, c'est pas du tout, j'espère, par vanité, parce que il y aurait pas, ça n'a pas d'intérêt, mais lorsque j'ai fondé le monastère en 1990, ça s'est fait vraiment par la grâce de Dieu, car comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas fait pour une fondation de monastère, ni pour une aventure, quelle qu'elle soit. Or, c'est une véritable aventure. J'ai quitté Paris, qui était une ville où j'étais né, que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup. J'ai quitté mon appartement, qui était mien, je l'ai vendu. J'ai quitté mon travail, qui était mien, je l'ai laissé. Donc, j'ai eu, du jour au lendemain, je n'ai plus de relevé de banque. Entre parenthèses. Ça fait drôle, vous savez, quand on a un salaire, qui somme toute n'était pas mauvais, de se dire je ne vais plus recevoir mon relevé de banque. Bon. Mais la plus grande joie que j'ai eue dans ma vie de fondateur, ce sont les premières semaines et les premiers mois de la fondation. Maintenant, nous sommes des nantis, nous sommes des bourgeois du monachisme. Bon, c'est difficile d'y échapper, ça c'est encore une autre question. Il faut, au travers de ça, être vigilant par rapport à notre bourgeoisie monastique. Quand je dis bourgeoisie, c'est pas un terme qui est générique, je ne sais pas, des moines en particulier. Il faut simplement être vigilant. Mais la plus grande joie que j'ai eue, c'était quand nous étions dans les orties. Pendant 2 ans, nous n'avons pas eu de sanitaire, de toilette, de douche, de chauffage, etc. C'est le plus beau moment de ma vie monastique. J'en rêve à certains moments de revenir à cet état-là. Parce qu'on n'avait pas de soucis. On ne se demandait même pas comment on allait manger demain. Bon, on avait un peu d'argent, bien sûr. On était arrivés tous avec un petit pécule. Heureusement, d'ailleurs, on aurait mangé des orties, la soupe d'orties. On en a fait. Mais il y avait beaucoup d'orties, je peux vous garantir. Mais voilà, on a eu, et on se le dit tous, nous étions 3 à 4 au début. Et on se le dit tous, c'était la meilleure période. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Et dès que le chauffage tombe en panne, alors les plus jeunes d'entre nous dans le monachisme sont malades. Ils sont malades parce que le chauffage s'arrête. Ou parce qu'il n'y a plus la lumière électrique qui s'allume. Et nous, on avait au début des bougies et on n'avait pas de chauffage. Et on était très heureux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, bien sûr, laisser la vie se dérouler. Pour accueillir des gens, pour accueillir des moines et des moniales, il a bien fallu restaurer les bâtiments. On ne pouvait pas rester dans l'état où on était. Ou alors, il fallait choisir de rester à 2 ou 3, pas plus. Ce n'était pas exactement ce qui m'était demandé. Donc, il a fallu travailler de nos mains, comme dit saint Paul. On s'est cassé les épaules, on a eu des je ne sais pas quoi, dans les muscles, toutes sortes de choses. Très bien. Et puis maintenant, on a un monastère bon, qui est satisfaisant au niveau matériel. Mais nous nous interrogeons tout le temps. Et depuis 1990, 16 ans, j'ai toujours voulu, et je le veux toujours, par la grâce de Dieu, avoir des gens à aider, à soulager, à consoler, même matériellement. Et je te racontais hier soir, on a une histoire très cocasse et très sympathique. On m'a confié un jour 2 Biélorusses qui étaient en exil, et qui n'avaient pas de papier, ils étaient sortis de leur pays pour les raisons qu'on peut imaginer. Et on m'a dit, est-ce que tu peux les garder 3 jours, le temps qu'on se retourne pour leur trouver un foyer? Ils sont là depuis 3 ans et demi chez nous. Mais c'est une joie. Et puis il n'y a pas que, il y en a eu d'autres, il y a eu des gens dans des situations dramatiques. Mais si nous n'avons pas cette conscience que si nous avons un peu d'argent, nous pouvons le partager, qui n'est pas à nous, que nous ne possédons pas, je ne sais même pas, Je peux vous dire, et je suis honnête, je ne sais pas ce qu'il y a sur les comptes du monastère. Et je ne veux pas le savoir, non pas par négligence, mais parce que j'ai confié cela à quelqu'un d'autre au monastère qui gère bien, avec prudence. Et moi, quand j'ai besoin d'argent, je vais trouver. Il y en a, il y en a, il n'y en a pas. Eh bien, il y en a pas. Et souvent, moi, je suis très, très créatif d'esprit, donc j'aime bien, on est en train de refaire un répertoire parce que l'autre est plus petit. Donc je décide souvent, je dis, tiens, on va faire ça, un beau toit, etc. Et on me dit, il n'y a pas d'argent. Bon, excusez-moi, on va attendre. C'est tout. On attend. Et Dieu permet, et parce qu'on ne veut pas, on se refuse d'être des gens qui possèdent. Je ne dis pas qu'à un certain moment, on ne possède pas. Vous savez, on parle de l'argent, mais il y a les objets, il y a tout. Il y a tout. On peut être très attaché à un petit stylo comme celui-là, par exemple, et se dire, celui-là, il est à moi. C'est pareil que si j'avais 3 millions de dollars ou d'euros, ou je ne sais pas quoi. C'est le même processus. Il faut arriver donc à se détacher, à utiliser, mais à se détacher. Donc à être libre en définitive.
Geoffroy, tu veux une question?
Oui, je voulais évoquer la chose suivante dans l'esprit de beaucoup de gens. L'Église est effectivement associée directement à l'argent. Je suis enseignant de religion orthodoxe. Pour certains élèves, les souvenirs, disons, de leur enfance lorsqu'ils allaient à l'Église, ils disent « Ah oui, l'Église !» Effectivement, ma maman, elle me donnait de l'argent, alors on allait le mettre près d'icônes, près de ceci ou de cela. Deuxième petite expérience que je voulais dire, des gens que je connais indirectement désirent faire bénir leur maison, ou parfois c'est lié à la confession ou à d'autres sacrements, et il existe un tarif pour qui, ben voilà, après avoir béni la maison, entre autres, ben le tarif c'est autant. C'est une somme parfois compliquée les verres. Pour moi-même, ça pose un problème, je veux dire, pour régler, etc. Et votre avis à ce sujet-là, dans certains cas, c'est parfois la confession aussi. Oui, c'est autant. C'est ce qu'on appelle la simonie, n'est-ce pas? Je devrais peut-être un jour expliciter ça avec des gens vraiment très concernés, mais je crois que ça pose un problème, et y compris vis-à-vis des enfants ou de gens qu'on peut trouver dans l'enseignement qui disent, mais enfin, c'est pas juste, hein, finalement, on voit bien. Hein, j'ai presque l'idée du curé profiteur, quoi.
Oui. C'est là, on touche un autre aspect hérétique de la simonie qui existe, il ne faut pas le cacher, qui existe, à savoir par exemple, on fait payer les services pour. Christophe le racontait, bien sans humour, et on a bien ri, hier soir, le racontait que dans certaines églises, pour se marier, eh bien, si on veut un chandelier, deux chandeliers, trois chandeliers, un polyéléos à un rang, deux rangs, trois rangs, un chantre, un chœur, il faut payer davantage, etc. Donc c'est une tarification selon la gloire humaine. Toujours pareil. Hein. Ça, c'est de la simonie. Il faut être clair. Donc c'est une hérésie. Alors, ne voyons pas que le négatif. Il y a des choses positives. Mon propre patriarche, Alexis II, a récemment, et je l'ai constaté des visus, demandé au prêtre de paroisse, au recteur, de ne plus faire payer les cierges, donc de réduire ce mouvement qui était très installé dans l'église russe en Russie, de faire payer tout ce qu'on peut faire payer, y compris les sacrements. Donc il a demandé que l'on arrête ce processus. Et il est allé jusqu'au cierge. C'est quand même allé assez loin. Et effectivement, j'ai constaté au mois de février que dans certaines paroisses, il n'y a plus de prix pour les cierges. Bien sûr qu'on donne une offrande, il y a un tronc, mais on met ce que l'on veut. Et je pense que cela, c'est une attitude intelligente, pour le moins, et non seulement intelligente, mais avec l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'évangile. Il faut que absolument que les fidèles, les prêtres, les évêques, etc., tout le monde s'y mette à ce sujet-là. Parce qu'effectivement, si on voit l'Église comme un lieu où l'argent rentre et circule et grossit, etc., c'est un contre-témoignage. Maintenant, quand des enfants Moi, j'ai des idées comme ça qui me viennent en vous écoutant. Quand des enfants au catéchisme nous le disent, qu'ils se souviennent que, voilà, on mettait de l'argent, etc. Bon, il faut deux choses. Il faut leur rappeler que l'on peut toujours faire des offrandes. Que cette offrande, elle aide à la vie de l'Église. Parce que l'Église, il faut qu'elle vive aussi. Elle a des bâtiments, elle a des prêtres qui n'ont pas toujours de salaire, etc., etc. Bon. Ça, c'est une chose. Donc, on peut leur expliquer, mais c'est un don. Évidemment, s'ils voient après qu'il y a des tarifs, ça fiche tout par terre notre enseignement. Donc, on peut leur dire aussi, bah, il y a eu un glissement, on ne devrait pas mettre de tarifs, il faut le penser comme un don. Voilà. Et puis, il faut penser aussi à donner des exemples concrets. Je pense que nous avons tous connu le père Cyril Argenti, comme vous voulez, qui était un homme qui vivait sa vie de prêtre dans une église grecque et qui avait un certain salaire en tant que prêtre grec, mais qui savait redonner. Et il m'a beaucoup frappé, toujours, chaque fois que je l'ai rencontré, par son âme de pauvre. C'est quelqu'un qui donnait. Il avait toujours des clochards qui frappaient à sa porte, qui dormaient sur le palier attendant qu'il ouvre la porte le matin pour demander quelque chose. Et il donnait. Il n'a jamais été vêtu avec luxe. Je n'ai jamais vu. Bon, je suis sûr, quand il avait ses ornements, il célébrait l'hôtel, il était correct, impeccable. Mais dans le quotidien, pas de luxe. Ce sont des exemples à donner. Il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y en a d'autres, fort heureusement. Moi, j'ai vu en Grèce un prêtre qui s'occupait d'orphelins, qui était pieds nus, et qui célébrait même pieds nus parce qu'il estimait que mettre des chaussures par rapport aux petits orphelins qui arrivaient sans chaussures et sans habits, c'était un excès. Et c'est un bel exemple dans un pays où on va dire que l'Église n'est pas trop pauvre. Il faut essayer de positiver par des exemples. Pour les enfants, c'est très important, pour les adultes aussi, bien sûr. Ne pas montrer toujours que le négatif.
C'est juste j'ai une expérience à Québec Armonde. C'est un mouvement qui a été fondé par quelqu'un qui vient de la misère. Et toujours, c'est la parole est donnée à ceux qui ont connu la misère. Et donc le discours est assez différent. Enfin, donc je ne sais pas quoi c'est entre les deux. Et l'expérience des gens qui ont vécu la misère, c'est tout le temps que la charité est source d'humiliation pour eux, et puis qu'il y a une dépendance qui se crée, et que la personne qui fait la charité a une autorité qui se crée sur eux. Et donc il y a cette idée. Alors donc il y a des gens dans ce mouvement qui refusent de donner de l'argent, mais qui à la place accompagnent les gens. Donc si on ne donne pas d'argent, on donne du temps. Il y a même des gens qui habitent dans les quartiers défavorisés pour créer une présence, pour casser un peu ce ghetto, etc. Et ça me paraît assez sain en fait. Et en même temps, moi je connais Père Cyril et je sais que quand il est mort, tous les pauvres à Marseille pleuraient. Mais je ne sais pas.
Oui, je pense que là vous touchez à deux choses importantes. Et le Christ nous dit ce que ta main droite donne, que ta main gauche ignore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner avec condescendance et avec justification, auto-justification. Ça, c'est un premier point. On peut donner, mais on peut toujours s'arranger pour donner de façon discrète, sans qu'on sache qui a donné. Et justement, dans les associations, on peut arriver à donner sans que celui qui va recevoir l'aide sache que ça a été donné par madame un tel ou monsieur un tel, etc. Donc, soyons discrets quand nous donnons, dans la mesure du possible. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que l'argent pour donner. C'est ce que vous soulignez. On peut donner aussi et partager par beaucoup d'autres biais. Et donner de son temps, donner de l'amour, donner de la compassion, donner de l'accompagnement. C'est une chose importante. Évidemment, bon là on traitait l'argent en tant que tel, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant de souligner que l'argent n'est pas l'unique moyen pour aider. Et que le risque de l'argent, c'est toujours le même, c'est de posséder l'autre. Si dans la rue je vois un pauvre et que je sors ostensiblement ma bourse et que je laisse tomber plein de pièces pour être vu, le Christ condamne ces gens-là en évangile, c'est clair. Alors il faut trouver le juste moyen. C'est pas toujours facile, parce que c'est une interrogation permanente. Moi j'ai vécu à Paris pendant par de longues années, jusqu'à 1990, et pas tout le temps, mais presque. Et j'ai toujours été confronté à des gens qui font la manche, comme on dit, qui font la quête, qui demandent de l'aide. Et c'est toujours très difficile de donner. C'est pas un acte qu'on peut faire comme ça. Et si on le fait comme ça, d'ailleurs, c'est pas très juste. D'abord parce qu'il y a des moments où on n'a pas d'argent dans sa poche. On n'en a pas, matériellement. Et qu'est-ce qu'on fait? On va passer comme ça, on va changer de trottoir comme le lévite. Ou bien, est-ce qu'on va être capable de dire une parole, un sourire, un mot gentil, ou dire simplement, ce soir, j'ai pas d'argent, pardonnez-moi, mais si je vous retrouve demain, j'essaierai de vous donner quelque chose, ou que Dieu vous aide. Mais quelque chose, un mot gentil, ne pas fermer son visage à l'autre. Ça, c'est important. Et quelquefois, on peut donner, on a de l'argent sur soi, et on peut donner, mais on peut le faire discrètement, sans que, en cachant avec la main ce qu'on donne, et on met dans la cédille, c'est mélangé à ce qu'il y a déjà. Que l'on ne repère pas que c'est plus ou moins que ce qui a déjà été donné, et que le voisin voit quelque chose.
Merci.
Il y a toutes sortes de moyens. Il faut les trouver.
Merci. Juste une dernière question, et après, je crois qu'il est l'heure de s'arrêter.
C'est concernant l'attachement. Vous avez dit qu'on s'attache aussi aux choses. Mais des fois, on s'attache par des sentiments à certaines choses. Est-ce que c'est un péché?
S'attacher est un péché. Bon, il n'y a pas d'ordre au péché. On ne peut pas mettre les bras péchés, les petits péchés. Ça ne existe pas, c'est le péché, c'est tout. Si je suis attaché par sentiment, tant qu'on ne demande pas l'objet, après tout, on peut rester attaché. Supposons, ce n'est pas le cas, mais supposons, je reviens à cet exemple, ce stylo aurait appartenu à mon grand-père. Je serais attaché par souvenir. C'est normal, il n'y a pas de péché là-dedans. Mais si on me demande, donne-moi ton stylo, ben, il faut que je sois capable de le donner, même s'il appartenu à mon grand-père. C'est là où le péché risque de s'insinuer. Ah non, 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 c'était à mon grand-père. Sous-entendu, ce n'était pas à mon grand-père, c'est à moi. À moi. Voilà. Et dans ma volonté de puissance et de pouvoir, je le garde. Je ne l'aurai pas. Voilà, tu vois où est le